Vous êtes sur RTL. RTL Soir.
Avec Christophe Paco.
La suite de votre journal, 40 ans, jour pour jour, après l'attentat de la rue des Rosiers à Paris, un hommage national a eu lieu aujourd'hui sur le lieu du drame. Souvenez-vous, le 9 août 1982, un commando ouvrait le feu dans une brasserie cachère. 6 personnes tuées, 22 autres blessées. Moment fort de recueillement auquel vous avez assisté. Thomas Proutot, bonsoir.
Bonsoir.
Cérémonie empreinte d'émotion et de colère également, Thomas.
Oui, au coin de la rue des Rosiers, au cœur de l'ancien quartier juif de Paris, une petite estrade est dressée devant la façade en mosaïque jaune, dernier vestige du restaurant de Joe Goldenberg. Jacqueline Yego s'appuie sur une canne pour s'approcher du micro. Le 9 août 1982, son frère avait choisi de déjeuner là.
Dès l'annonce de l'attentat, je me suis rendue au plus vite en ce lieu. De nombreux policiers barraient l'accès au restaurant. J'ai demandé à l'un d'eux des nouvelles de mon frère. J'ai alors compris que mon frère venait d'être assassiné dans cet attentat terroriste.
40 ans après, Guy Benarous revit chaque jour le carnage. Un terroriste lui tire dans la jambe, il échappe à la mort. Aujourd'hui, il déplore un procès que l'on attend toujours.
Ma colère, elle n'est pas contre l'État français. Ma colère, elle est contre le fait que ça avance pas. Quand ça met 40 ans, c'est qu'on n'a pas voulu l'instruire. On ne va pas se raconter l'histoire. Maintenant, si c'est une affaire d'État, qu'on nous le dise.
Une prière pour les morts, un kaddish conclut la cérémonie.
On l'entendait dans les témoignages, Thomas, on peut se demander, 40 ans après, si un procès aura lieu un jour.
Alors oui, un procès se profile, mais il n'aura pas forcément la dimension espérée. 4 terroristes présumés ont été identifiés par les magistrats français, mais un seul a été extradé en France, c'était en 2020. Un homme de 63 ans, d'origine palestinienne, soupçonné d'être l'un des tireurs. Les autres suspects sont toujours en Jordanie et en Cisjordanie, et leur gouvernement refuse leur extradition. Les proches des victimes demandent à la France d'agir pour faire avancer.
Thomas Proutot, responsable du service police-justice d'RTL. Éric Dupond-Moretti, on l'a bien compris, présent ce midi auprès des familles des victimes. Un ministre mobilisé en plein été alors que le gouvernement est a priori en vacances jusqu'au 23 août. Le ministre de la Justice, Thomas Després, bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que le ministre est un cas unique?
Non, pas du tout. Ils sont plusieurs dans ce cas qui ne sont pas encore partis en vacances à cause de l'actualité et qui peut-être n'auront le droit qu'à quelques jours de repos, pas plus. La faute à la sécheresse pour certains. Le ministre de l'Agriculture, par exemple, Marc Fesneau, a prévu de rester très mobile tout l'été pour aller à la rencontre d'agriculteurs en souffrance. Le ministre de la Santé, lui, enchaîne les rendez-vous à son ministère pour évoquer la canicule, le Covid ou encore la variole du singe. D'ailleurs, vous l'avez dit, il sera demain matin l'invité de Jérôme Florin. Oui. Et puis, il y a aussi des ministres qui n'ont surtout pas envie qu'on les oublie pendant les vacances. C'est la stratégie des fameuses cartes postales de l'été. Alors, si ça vous tente, Christophe, le secrétaire d'État à la mer, Hervé Berville, vous invite à l'inauguration du port de plaisance de Bagnules-sur-Mer. Ce sera jeudi, c'est dans les Pyrénées-Orientales. Tandis qu'au même moment, le ministre des Transports, Clément Beaulle, enfinera son plus beau lycra pour une balade en vélo en Eure-et-Loire. Pas vraiment indispensable dans l'actualité, mais ça permet de passer à la télé, de remplir son compte Instagram et surtout donc de ne pas se faire oublier.
Et notre président, toujours à Brégançon?
Le président est toujours à Brégançon et il échange régulièrement avec Elisabeth Borne qui elle aussi est dans le Var.
Très bien, on la surveille, on ne sait jamais. Peut-être une rencontre au fort de Brégançon. Merci Thomas Després, service politique d'RT. À l'étranger, des munitions ont explosé tout à l'heure dans un aérodrome militaire russe à Saki, dans l'ouest de la Crimée, sans faire de victimes, c'est ce qu'affirme en tout cas l'armée russe, après l'annonce de détonation dans cette zone. C'est une info qui a été développée par les autorités locales, bien sûr. Moscou, qui vient d'accuser les forces ukrainiennes de bombarder la plus grande centrale nucléaire d'Europe, celle de Zaporijjia en Ukraine, occupée par l'armée russe depuis le mois de mars, depuis le début de la guerre, tandis que le président ukrainien a brandi, lui, de son côté, le spectre de la catastrophe de Tchernobyl. Bonsoir, Sophie. Jousselin.
Bonsoir.
Et de son côté, l'Agence internationale de l'énergie atomique s'inquiète pour la sécurité du site et de sa population environnante.
Oui, parce que la centrale est sur la ligne de front au bord du Dniepr. Environ 500 soldats russes sont sur le site avec tanks et véhicules blindés. Des munitions y sont stockées également. Pour Segui Starouch, chef de la division militaire de Zaporijjia, la situation est inquiétante.
Juste à côté de la centrale, les Russes ont installé des unités d'artillerie et des lance-roquettes. À n'importe quel moment, il peut y avoir une explosion et s'il devait arriver quoi que ce soit, les vents transporteraient les particules radioactives dans toutes les directions et j'espère que ça n'arrivera jamais.
Si les récents bombardements n'ont touché aucun réacteur, en revanche, ils ont endommagé une ligne à haute tension qui alimente les réacteurs, ce qui accroît les risques. Bruno Chariron de la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité.
La capacité d'alimenter en électricité la centrale et donc de refroidir les réacteurs diminue. Donc pour l'instant, la situation semble maîtrisée. Mais plus le temps passe, plus le risque de catastrophe nucléaire augmente. Il faut penser aussi à l'épuisement du personnel qui est en situation d'occupation et le risque d'erreur humaine augmente aussi.
La radioactivité est actuellement normale sur le site de la centrale et ses alentours.
Sophie Jousselin, service étranger d'RTL, et puis la chercheuse franco-iranienne Fariba Abdelka, qui purge une peine de 5 ans d'emprisonnement en Iran, va bénéficier d'une permission de sortie de 5 jours. C'est ce que vient d'annoncer son comité de soutien. Cette annonce intervient au moment même où les grandes puissances attendent une réponse de l'Iran à une proposition européenne d'accord sur son programme nucléaire. Le créateur de mode japonais, Issey Miyake, est décédé à l'âge de 84 ans. Salué comme un grand créateur, il s'était installé à Paris en 1965. Il a beaucoup travaillé notamment pour Guy Laroche ou encore Givenchy. Les sports, 18h16, après le match nul, un partout à l'aller. Les Monégasques retrouvent ce soir le PSV Eindhoven aux Pays-Bas pour franchir, on l'espère tous pour le foot français en général, un tout nouveau palier européen avec l'espoir de disputer la phase de groupe de la très lucrative Ligue des Champions en septembre prochain. Débutera cette épreuve qu'on adore tous à l'image du PSG et de l'OM. On aimerait bien que Monaco soit de l'aventure. Derniers échos en tout cas avant le coup d'envoi tout à l'heure 20h30 dans votre journal de 19h avec Mickaël Lefebvre. La météo, on y retourne. Anthony Kazmarek, 18 départements, le rappel, en vigilance canicule.
Oui, tout d'abord 16 départements de la façade ouest de la Loire-Atlantique au Pays Basque ainsi que des Deux-Sèvres à la Charente jusqu'à la plaine toulousaine et à l'ouest des Pyrénées. Nous avons aussi le Gard et le Vaucluse mais qui eux devraient sortir de la vigilance demain matin parce que les brises marines vont limiter la hausse des températures près de la Méditerranée. Mais partout ailleurs, ça va encore grimper par rapport à aujourd'hui. Au réveil, on sera généralement entre 17 et 22 degrés, un petit peu moins dans le nord-ouest. Dans l'après-midi, comptez globalement de 30 à 36 degrés, toujours un petit peu moins près des plages de la Manche et des pointes à 38 à 40 degrés dans le sud-ouest. Il fera demain après-midi 31 à Lille, 32 à Strasbourg et Besançon, 34 à Paris, à Marseille, à Lyon et à Nîmes, 36 à Nantes et à Montpellier. 38 à Bordeaux et Toulouse, jusqu'à 40 degrés à Mont-de-Marsan. Toujours sous un soleil de plomb, encore du vent malheureusement, du vent de nord-est dans la moitié nord, du vent de sud dans la vallée du Rhône, du vent d'autan en plaine toulousaine, le tout à 40 km/h en rafale. Enfin, quelques orages se déclencheront à nouveau sur les reliefs, sur les Alpes du Sud, les Pyrénées et la montagne Corse.
Et il n'y a pas que la France, Anthony Kazmarek, puisque le mois dernier fut l'un des 3 mois de juillet les plus chauds jamais enregistrés dans le monde. C'est ce que vient d'indiquer à l'instant l'Organisation Météorologique Mondiale, dont vous faites partie bien sûr, Anthony.
Évidemment.
C'est un fleuron même. De l'agence européenne,
voire
mondiale. A tout à l'heure, Anthony, fil rouge, bien sûr. On vous parlait de cet incendie dans l'Aveyron qui a déjà ravagé plus de 1600 hectares. Le président du département et patron du service départemental d'incendie et de secours, Arnaud Viala, notre invité, il est avec nous. Il sera connecté dans une minute.
RTL Soir.
Aldi.
Christophe Paco, l'invité d'RTL Soir.
À 18h19, direction l'Aveyron, nous attend le président du département et également président du SDIS de l'Aveyron, le service départemental d'incendie et de secours. Arnaud Viala, bonsoir à vous.
Bonsoir.
On l'a écouté il y a quelques instants avec notre envoyé spécial, Patrick Tégéraud. Déjà 700 hectares qui sont partis, des pompiers mobilisés, près de 500 et une population déplacée, 3000 personnes. Qu'est-ce qu'on peut dire ce soir? Est-ce qu'il y a des départs de feu un peu partout encore ou est-ce que la situation est maîtrisée ou est-ce qu'on essaye de faire au mieux?
Alors on essaye de faire au mieux évidemment, on est entre les deux situations que vous énonciez, c'est-à-dire que la situation n'est pas complètement maîtrisée, il n'y a pas de nouveaux départs de feu, il y a malheureusement des reprises de feu qui sont liées à trois phénomènes, hein. D'abord les températures extrêmement élevées que nous avons, les vents, et puis le fait qu'on est dans une zone très escarpée, boisée, difficile d'accès, et qui, bien entendu, rend l'exercice d'extinction totale assez complexe.
Assez complexe, avec des hommes sur le terrain, comme par les airs aussi, avec les fameux Canadair.
Absolument, donc les moyens terrestres sont considérables, hein. Vous l'avez dit, presque 500 pompiers, avec tous les équipements nécessaires, les matériels, les véhicules, etc. Et puis, fort heureusement, du renfort aérien depuis hier soir, avec les Canadair, les Dash, un hélicoptère lourd aussi qui a rejoint le site cet après-midi. Je dis fort heureusement parce que la topographie des lieux fait que seuls les avions arrive à toucher de manière précise les zones qui sont les
très
moins escarpées, faciles à
vous l'avez dit. Les gens qui ont été évacués sont pour l'instant recueillis un peu partout, les gens du camping ou du village, tout se passe bien?
Alors, les gens des campings, hein, puisqu'il
des
y
campings,
en a
pardon.
7, ouais, 7 et du village sont évidemment impatients de pouvoir regagner leur lieu de vie ou de villégiature. Un élan de solidarité s'est organisé autour des élus des mairies concernées, autour aussi des bénévoles. Et donc, les gens sont accueillis, on leur donne de quoi se restaurer, boire, et on espère vraiment qu'ils pourront regagner leurs habitations le plus rapidement possible.
Cette solidarité, c'est formidable, surtout dans un département, une région chez vous qui ne connaît pas d'incendie aussi important. C'est pas encore des méga-feux, mais c'est pas une région avec un climat méditerranéen, je peux me permettre.
Alors c'est un département qui n'avait pas vécu d'incendie aussi important de type plutôt méridional dans les 20-30 dernières années. Là nous en sommes quand même au deuxième hein, depuis le début de l'été, puisque en juin on a eu déjà un épisode sévère.
Aussi fort ?
Qui a ravagé... Pas tout à fait aussi fort, il a ravagé 400 hectares, mais il a eu lieu sur un week-end où le vent était très très violent. Et donc nous avons été éprouvés aussi par cet épisode-là. Et effectivement, ça nous amène à des considérations sur le moyen terme, parce qu'on se rend bien compte que le changement climatique n'est pas qu'un concept et que nous sommes frappés de plein fouet.
Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Qu'est-ce que vous conseillez ? Qu'est-ce que vous imaginez ?
Là, nous, ce que nous souhaitons, bon, moi je suis ancien député, hein, j'observe avec beaucoup d'attention ce qui se passe au niveau national sur la réflexion sur les moyens de la sécurité civile pour le futur, puisqu'il y a cette interrogation.
Comme les Airbus, par exemple, dont on a parlé sur l'antenne d'RTL, ces Airbus
qui... Oui, alors j'ai pas d'avis formalisé, moi, sur les réponses techniques à apporter, mais en tout cas, la flotte de Canadair est vieille, elle ne peut pas être renouvelée puisqu'ils ne sont plus produits, ce sont des avions qui sont très performants parce qu'ils écopent, ils vont très vite, donc il va falloir renouveler ça, et nous, au niveau local, on veut avoir une réflexion similaire, non pas sur des moyens aériens, mais sur des moyens terrestres, de façon à optimiser le dispositif que nous avons, qui nous permet de faire face à la quasi-intégralité des besoins que nous avons au cours de l'année, mais qui, manifestement maintenant, doit évoluer à la lueur de ces nouveaux phénomènes qui nous impactent l'été, avec une sécheresse là qui est inédite. Je suis natif d'ici, oui. J'ai jamais vu ça.
Hein. Arnaud Viala, première mesure rapidement qu'on peut prendre dans ces cas-là, puisque c'est tout nouveau pour vous, ça fait deux fois. Qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite à l'instant T ? Est-ce qu'il faut changer les cultures ? Est-ce qu'il faut stocker des avions à côté de chez vous, les parquets ?
Alors, il y a plusieurs niveaux de réflexion. Il y a un premier niveau de réflexion sur des équipements dont le SDIS de l'Aveyron devra probablement faire l'acquisition parce que nous ne les avons pas. Je vous cite un exemple qui est assez anecdotique mais qui est compréhensible par tous. On n'a pas, nous, ni au niveau du département ni au niveau du SDIS, de ravitailleurs en carburant pour nos équipements terrestres.
D'accord.
Ce qui signifie que on ne peut pas aller au plus près de nos équipements pour faire le plein dans des zones escarpées comme ça. Ça aurait tout son intérêt. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on va mettre à l'ordre du jour de nos réflexions de septembre, là. Hein. Et il y a d'autres équipements comme ça qui peuvent être vus. C'est le premier niveau. Deuxième niveau, en réponse opérationnelle, un SDIS comme le SDIS de l'Aveyron, il est configuré avec une quarantaine de centres de secours répartis partout sur le territoire parce qu'on a un besoin de proximité. Vous comprenez que quand on prélève des femmes, des hommes et des matériels sur la quasi-intégralité de ces sites pour faire face à un événement majeur, on fragilise la réponse opérationnelle sur le reste des accidents, feux de moindre importance, besoin de secours à personne, qui continuent d'avoir lieu, hein, parce qu'il y a toujours des besoins. Donc on a aussi cette réflexion à avoir sur le plan opérationnel, sur comment on juxtapose un gros événement et le reste de notre activité. Et troisième question qui va se poser effectivement si on fait l'observation que ces phénomènes s'intensifient, c'est la proximité de bases aériennes qui permettent de ravitailler. Ouais. Là, tant qu'on a les Canadair, c'est pas un problème puisqu'on a la chance d'avoir des grands plans d'eau et que les Canadair écopent sur ces plans d'eau qui sont à peu près à 10 minutes pour vous donner l'exemple feu que nous avons là. Quand il s'agit d'aller recharger à Béziers ou à Cahors des Dash qui eux n'écopent pas, eh bien tout de suite, c'est un peu différent.
Oui, et encore, il faut qu'on conserve notre eau, vous le savez. Si bien, merci Arnaud Viala d'avoir été notre invité ce soir dans RTL Soir. Je rappelle que vous êtes le président du département de l'Aveyron et du service départemental d'incendie et de secours. Dans un instant, on va partir en Bretagne, retrouver Léonard Cassette pour notre série 7 jours, 7 reportages. Puis nous jouerons, bien sûr, auparavant, avec Laurent Marsic.
RTL Soir. RTL. Laurent Marsic.
18h27, il est grand temps d'accueillir Laurent. Laurent Marsic, tous les jours, il nous propose, vous le savez, une idée de jeu. Et on occupe bien sûr les parents, les enfants dans la voiture. Tiens, les parents, peut-être ce soir, vont être encore plus tranquilles que d'habitude.
Voici un jeu qui ne nécessite aucune préparation, aucun ustensile et qui, oh joie pour le conducteur, ne fait pas ou presque pas de bruit. On va quasiment faire du yoga. Tu connais sûrement ce jeu qui consiste à écrire dans le dos d'une personne un mot, lettre par lettre. Eh bien, c'est la même chose, mais comme on est en voiture, on va jouer avec les mains. L'idée est de penser à un mot, donc il va falloir tracer chaque lettre dans la main d'un autre joueur. À lui de deviner le mot. Celui qui trouve est évidemment celui qui gagne. C'est alors à lui de choisir un nouveau mot à tracer. Si tu veux, tu peux choisir une thématique. Par exemple, tracer un mot en rapport avec les animaux, la plage, la ville, les vacances. Cela permet aussi à l'autre joueur de ne pas se perdre dans ses propositions. Et maintenant, à toi de tracer un mot.
Merci beaucoup Laurent Marsic, chronique à retrouver tout cet été dans le podcast RTL Albin Michel Jeunesse. Lis-moi une histoire.
RTL. 7 jours, 7 reportages.
7 jours, 7 reportages vous emmène comme depuis le début de la semaine en Bretagne, dans le Morbihan. Bonsoir Léonard Cassette.
Bonsoir à toutes et à tous.
Ce matin, vous avez quitté notre continent depuis le port de Carnevel. Je vous écoute attentivement à côté de Lorient. Une petite traversée en bateau. Ça s'est bien passé jusqu'à l'île de Groix. Oui, visiblement, puisque vous y êtes.
C'était super.
Oui, puisque vous y êtes. On parle beaucoup absolument de sécheresse là-bas chez vous. Et évidemment, le manque d'eau, comme dans certains secteurs français, est particulièrement important chez vous là-bas.
Exactement. À sec en ce moment, quasiment à sec sur ce petit bout de terre de 8 km sur 3.
Oui, on a un petit souci avec votre connexion parce que vous êtes sur l'île de Groix. On va vous retrouver par téléphone, ce sera beaucoup plus simple. Hein. On le sait, c'est un endroit particulier avec, c'est vrai, cette sécheresse qui est un peu partout. Et Léonard Cassette, je vous écoutais ce matin, vous étiez parti, je le disais, hein, tranquillement vers l'île de Groix. Et vous avez eu le temps de faire un sacré constat. Hein. En tout cas, vous avez retrouvé des vacanciers un peu à droite, un peu à gauche. Et vous êtes de retour avec nous puisque vous êtes toujours là-bas sur ce petit port qu'on adore. C'est vraiment un lieu d'excursion assez formidable. Et c'est vrai que les connexions sont difficile à établir là-bas. Je ne sais pas s'il reste encore des cabines téléphoniques à l'ancienne. Je ne sais pas, je me retourne vers Anthony Casmarie qui est un habitué de l'île de Groix. Je ne sais pas si vous êtes là-bas à l'île de Groix, vous. C'est vrai, Anthony Casmarie? Non?
Oui. Ça m'est arrivé une fois, mais je n'ai pas vu de cabine téléphonique. Mais,
vous souvenez?
Sans doute. Hein.
Ouais, vous souvenez.
J'étais jeune.
Voilà, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vacanciers en ce moment, c'est normal. Mmh. Et même ceux qui arrivent sur l'île en parlent encore. Écoutez par exemple Mathieu.
On n'a pas le droit du tout de nettoyer les bateaux avec de l'eau potable. Et on n'a même plus d'eau sur les pontons. Pareil, on nous demande de faire attention pour la durée des douches, le nombre de douches, etc. Donc là, je suis en train de nettoyer à l'eau de mer pour enlever les saletés. Et après, forcément, il reste toujours la piste de sel, mais ça, c'est pas très grave.
On s'adapte.
On s'adapte, voilà. On comprend tout à fait les restrictions d'eau. Donc il faut qu'on fasse tous attention. En plus, il y a beaucoup de monde là, donc forcément, on consomme plus. Donc on fait ce qu'il faut pour limiter au maximum.
On fait attention. On l'a bien vu. Hein. On se responsabilise parce que c'est vrai que la population là-bas, comme disait Anthony Casmarie, quand on y va, c'est qu'il y a de plus en plus de monde pendant les vacances. Ça veut dire que ça triple, ça quadruple pendant l'été, c'est bien ça, Léonard?
Oui, exactement. Pour faire face à l'affluence estivale, Groix, d'ailleurs, s'est doté d'une station de dessalement de l'eau de mer. Et du coup, je suis allé la visiter avec le maire de l'île, Dominique Yvon.
C'est ça, le problème, c'est qu'on passe de 2000 habitants à 5000 en l'espace de 3-4 jours. On consomme deux fois et demi plus, quoi. Alors, vous voyez, où on prend l'eau de mer, là-bas, vous suivez les ballons rouges, là. Après, ça passe dans les deux appareils. L'eau douce ressort par ici et elle est déminéralisée. Donc là, on la remet dans le barrage et après, elle va à l'usine de traitement, quoi.
Alors, les deux appareils dont parle le maire, en fait, c'est deux conteneurs avec à l'intérieur tout un système de pompes qui permet de pressuriser, de filtrer l'eau de mer dans plein de tubes pour en faire de l'eau potable.
Ah, pas mal. On dit bien les groisillons, c'est ça, hein, chez vous, Léonard?
Oui, exactement.
Comment ils gèrent tout ça sur leur île?
eh bien certains tentent de trouver des solutions
pour limiter les pics de sécheresse. Jean-Pierre est le responsable de la brasserie Bière de Groix qu'on trouve au bout d'une route en montée à la sortie du port. Avec une production de 200 000 bouteilles par an, ça fait plusieurs années qu'il a mis au point un système de canalisation en circuit fermé pour limiter son impact en eau. Et je vous emmène dans sa brasserie.
Ah oui, dès qu'on arrive, il y a déjà une tonne de bouteilles.
Alors donc là, vous êtes dans ce qu'on appelle la salle à brasser. Bien sûr, la bière, elle est faite essentiellement avec de l'eau.
Donc là, la situation actuelle, c'est un vrai problème pour un brasseur, d'autant plus sur l'île de Groix.
Effectivement.
Pour produire une bouteille de bière, il faut quelle quantité d'eau ?
La moyenne en France, c'est de l'ordre de 7 litres. L'eau sert par exemple pour refroidir la bière, l'eau sert aussi pour le nettoyage. Et donc, moi j'ai passé beaucoup de temps sur la façon de mieux utiliser l'eau. Donc aujourd'hui, cette brasserie, elle travaille à 3 litres d'eau pour 1 litre de bière. Vous savez qu'un foyer moyen consomme à peu près 120 mètres cubes d'eau par an.
Un foyer moyen, c'est deux adultes, deux enfants,
c'est ça. Eh bien, la brasserie ici consomme 360 mètres cubes. Et c'est l'équivalent de 3 familles.
Très bien, en tout cas. C'est sympa, cette petite brasserie, hein, Léonard. C'est vrai qu'on a des problèmes de connexion avec vous, mais ça marche. Ça y est, ça fonctionne. Bravo, Denis, en tout cas, la réalisation.
Super. Écoutez, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de goûter de petites bières, mais je le ferai peut-être demain.
Mais personne ne vous croit. C'est pas la peine. Non, Léonard Cassier, personne ne vous croit. On aura plaisir à vous retrouver demain matin et demain soir dans RTL Soir. 18h32, la météo, bien sûr. Ça vous intéresse vers l'île de Groix et partout en France ce soir. Anthony Kaczmarek.
Un temps toujours sec, chaud, ensoleillé pour demain et du vent qui va souffler. Du vent de nord-est sur la moitié nord, vent sud dans la vallée du Rhône, vent d'autant en pleine toulousaine jusqu'à 40 km/h et ces vents vont renforcer le risque d'incendie. On aura toutefois quelques orages comme aujourd'hui sur les reliefs dans l'après-midi sur les Alpes du Sud, les Pyrénées et la montagne Corse. Les températures en hausse, généralement de 30 à 36 degrés sur tout le pays, des pointes à 38 à 40 dans le sud-ouest et désormais 18 départements sont en vigilance orange canicule, le Gard, le Vaucluse et 16 départements de la façade ouest.
Anthony Kaczmarek, on vous retrouve juste avant juin le 19h comme le veut la tradition dans RTL Soir, et dans RTL Soir, là aussi c'est une belle tradition d'été. On va parler d'un parc d'attractions qui cartonne en ce moment, comme beaucoup de parcs en France. C'est un succès incontestable. Je vous amène chez Spirou dans un instant.
RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Christophe Paco.
On évoquait la semaine dernière ici même la bonne santé du tourisme en France et des premiers chiffres de fréquentation qui sont nettes hausse. Ce soir, on va lâcher prise, on va se faire un petit peu de bonheur, on va se faire plaisir avec ce qu'on fait souvent en famille, ce qu'on adore tous, c'est les parcs d'attractions. Alors, derrière les géants du divertissement comme Disney, Astérix, il y a plein d'autres parcs en France qui tirent bien leur épingle du jeu visiblement cette saison, à l'image du parc Spirou où nous attend le directeur général Hervé Lux. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir.
Ça se passe plutôt bien. Vous avez ouvert à quelle époque, vous ?
Ah ben, nous ouvert à Pâques.
À Pâques ?
Pour les vacances de Pâques, au mois d'avril.
Très bien. Et depuis, près d'Avignon, dans le Vaucluse, à Monteux, ça n'a pas arrêté de progresser, la fréquentation ?
Oui, on a eu un très très beau printemps. Comme tous les parcs en France, ça a vraiment très très bien fonctionné. Très beau début d'été, malgré la chaleur, on a de belles fréquentations, donc on est super contents.
La chaleur, c'est un frein habituellement quand même pour venir dans un parc, on est exposé avec sa famille.
Oui, là, alors nous on a effectivement sur le parc la chance d'avoir 3 cinémas dynamiques qui sont des cinémas 5D qui sont climatisés. On a créé une nouvelle zone cette année avec une zone aquatique qui permet d'avoir une balade dans un labyrinthe végétal avec des jets d'eau partout, on a aussi des attractions aquatiques, donc on a un bon mixte, mais néanmoins, effectivement, c'est toujours un frein. Effectivement.
À l'américaine, est-ce qu'il y a pas mal de petits brumisateurs pour passer un petit moment avec les enfants ?
Oui, ben on a couvert une partie de tous nos chemins piétonniers, on y a mis des brumisateurs, on y a rajouté une zone aquatique où on peut carrément s'arroser toute la journée. Donc voilà, on commence à avoir des belles zones de confort sur le parc qui nous permettent effectivement de proposer des alternatives aux fortes chaleurs actuellement.
Bien sûr, il y a des zones d'attente, j'imagine, qui ont été créées. Peut-être que ça a changé dans votre façon de dessiner le parc, peut-être des zones à l'ombre, même pour pique-niquer.
Oui. Ben, en fait, ce qu'on a fait surtout, c'est qu'on a végétalisé le parc énormément depuis 3 ans. On plante énormément dans le parc de végétalisation. Évidemment, les files d'attente, elles sont couvertes. On a la partie aussi des cinémas qui sont climatisés, nos restaurants également. Enfin, voilà, on a essayé effectivement d'installer un maximum de zones qui permettent à nos visiteurs de se rafraîchir sur le parc.
Est-ce qu'on peut rester plus tard le soir aussi chez vous, parce que c'est peut-être un changement d'horaire, hein ?
Oui, alors effectivement, on s'est lancé cette année dans des ouvertures en nocturne. Alors, la prochaine ouverture en nocturne qui a lieu le 11 août.
Donc, très bien.
C'est tout près. Ben, ouais. Voilà. Donc,
ouais, très bien. Vous pouvez me faire rêver un petit peu, parce que nous, avec toute la rédaction d'RTL, Spirou, c'est quoi? C'est tout le groupe? C'est-à-dire, il y a du Gaston Lagaffe, il y a du Boule et Bill, il y a Fantasio,
oui,
et tout ça?
Ben, exactement. Finalement, le parc Spirou, c'est le parc du journal de Spirou. Donc, on y retrouve Spirou, les éditions du Puy. Donc, on y retrouve tous les héros du journal, ça va, effectivement, de Gaston Lagaffe, de Boule et Bill. On a Lucky Luke avec nous, évidemment.
Génial.
Marsupilami. Ah, notamment.
Il faisait pas un petit bruit, le Marsupilami? Qu'est-ce qu'il faisait déjà?
Ah, il fait un petit ouba ouba.
Ah, ouba ouba. Il y a du nouveau chez vous? Parce que ça, Hervé Luc, c'est important pour un parc, quoi. Il faut à chaque fois apporter une nouveauté.
Oui, alors on a investi cette année plus de 4 millions d'euros dans une grande zone qui est, on va dire, la zone Kid Paddle Game Over, qui est dédiée à un auteur qui s'appelle Midam. Donc du coup, on y a créé sur 5000 m² une super attraction, une attraction qui s'appelle Blorks Attack, qui est un disco coaster magnifique, wow, qui fait une 100 mètres de long, qui propose des super sensations en famille. Voilà, avec l'Aquaslime Project, qui est l'aire de jeu aquatique en plus. On a vraiment un espace qui est très très sympa et une très très belle nouveauté. Ouais.
Super, ça sera une saison de tous les records, on l'imagine, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Je ne sais pas si on a le Ouba Ouba, Dany, à la réalisation.
Ouba, hop,
hop, refais-moi. Vas-y, tu peux appuyer sur le bouton. Hein.
Ouba, Ouba, hop.
Ah ouais, ça marche bien. Hein. Ça, ouais, oui. Ça. On se croirait au parc, hein, chez vous.
Eh oui, exactement, ils sont là, ils sont parmi nous les marsupilami.
Moi, mon préféré, c'est Gaston Lagaffe, hein, ce qui me ressemble. Voilà.
Ah, on a un cinéma dynamique qui est top avec Gaston.
Eh ben, à bientôt. On arrive toute l'équipe. On est combien? 25, 30, 40. C'est bon? Merci.
Écoutez, on vous attend avec impatience.
Hervé Luc, voilà. Parc Spirou, les parcs, donc, c'est bien en ce moment, avec des zones bien protégées, c'est important. Et puis, c'est cinéma aussi pour prendre un peu de fraîcheur. Les parcs, tout va bien en France dans le tourisme en ce moment. 18h39, notre grande série de l'été à venir. Puis, laissez-vous tenter de l'été.
RTL, les séries de l'été.
Et notre série de la semaine nous emmène sans plus tarder au frais dans la ligne Maginot. Il fait 12 degrés en moyenne dans ces galeries du souvenir. Alors, pourquoi la ligne Maginot? Eh bien, parce que sa fonction d'abri intéresse à nouveau tous les visiteurs depuis mars dernier. Alors, on vous propose, jusqu'à dimanche en tout cas, d'en redécouvrir le rôle et l'histoire qui ne s'est pas arrêtée à cette invasion allemande de 1940 que personne ne peut oublier. Loin de là en tout cas. Bonsoir à vous, Samuel Goldschmidt.
Bonsoir.
Deuxième épisode aujourd'hui de cette série de l'été sur RTL. Avec cette construction de cette ligne, c'est le plus grand chantier, faut-il le rappeler, des années 30 en France.
Décider la ligne a pris plus de 10 ans de débats puis d'études. La loi sur l'organisation défensive des frontières, une fois votée, démarre alors une aventure gigantesque. 500 entreprises vont participer aux appels d'offres. Michel Trutmann est colonel en retraite, auteur du livre Hackenberg, le géant de la ligne Maginot.
On a eu jusqu'à environ 20 000, peut-être 25 000 ouvriers sur un certain nombre de chantiers au total. Et certains chantiers massifs, comme celui du Hackenberg ou du Horwald, comprenaient jusqu'à 2 000 ouvriers en même temps.
Les villages tout autour des gros ouvrages ont vu leur existence littéralement bouleversée, car il faut s'imaginer le gigantisme des chantiers, rappelle Claude Poésy, qui entretient et fait visiter l'ouvrage du Hackenberg en Moselle.
Alors il faut vous imaginer un chantier comparable à une centrale nucléaire aujourd'hui. C'est comme si on avait construit des centrales nucléaires tous les 3 à 6 km le long de la frontière. Ça apporte la prospérité. L'agriculteur devient maréchal ferrant, il devient soudeur dans la ligne Maginot. Ensuite, il devient maçon, comme c'était le cas de mon grand-père. Ces ouvrages types, vous avez un ou deux blocs d'entrée à l'arrière, côté français, les lieux de vie des hommes. Ensuite, à l'opposé, on retrouve de 1 à plusieurs blocs de combat. Ici, au Hackenberg, on en a 15. Totalement enterré, vous ne voyez que les blocs de combat et les blocs d'entrée de l'extérieur.
Et pour les blocs de combat, les ingénieurs vont faire progresser la science du béton qui va couler à flot, comme à l'ouvrage du Chenambourg que dirige Marc Alter.
Le bloc 3 dans lequel je me trouve, là, au fort de Chenambourg, c'est un bloc avec une tourelle de 75. Le béton et la tourelle, c'est pratiquement 7000 tonnes. C'est le poids de la tour Eiffel.
Le poids global de béton est vertigineux. L'épaisseur moyenne des plats fond des blocs est de 3,50 m.
Oui, et en même temps, ce sont des installations militaires, Samuel. Est-ce qu'on a cherché un moment à cacher ces travaux?
Alors, le secret est cultivé le plus possible. D'ailleurs, le secret, c'est aussi une question de dosage, explique Marc Alter de l'ouvrage du Chenambourg.
Alors, il y a une dimension secrète, mais qui ne doit pas rester trop secrète. On a envie que l'adversaire sache que vous êtes en train de construire quelque chose, mais on n'a pas envie qu'ils connaissent tous les détails techniques.
Néanmoins, les équipements les plus sensibles seront bel et bien sévèrement protégés. Les éléments des tourelles d'artillerie arriveront de nuit sur des chariots bâchés. Tout ce qui est installé dans la ligne Maginot est le dernier cri de l'ingénierie de l'époque. Et évidemment, ce n'est pas gratuit, rappelle Michel Trutman.
Ça a finalement coûté environ 5 milliards de francs, auxquels il faudrait rajouter les crédits accordés aux armées et aux régions militaires, qui finalement arrive peut-être à 7 milliards. C'était moins cher qu'une modernisation mécanique et blindée de l'armée.
Marc Alter, le directeur du Schönenbourg, a essayé de réactualiser les sommes.
En valeur actuelle, toute la ligne Maginot, avec les réserves, les munitions, la construction des ouvrages, c'est revenu à 2 milliards d'euros. C'est-à-dire très peu. L'ouvrage de Schönenbourg a coûté 60 millions d'euros. Il y a des transferts de joueurs de football, il y en a pour 120, 130 millions. Donc c'est pas ça qui a causé la ruine de la France ou qui a empêché la France de construire des chars puisqu'on en avait plus que les Allemands.
Mais l'actualité économique des années 30 et 40 va rattraper la ligne au fur et à mesure des années.
La crise de 29 qui atteint la France en 31-32 ampute certains secteurs qui étaient pourtant prioritaires avec des tourelles d'artillerie, et on se retrouve avec des ouvrages, je dirais, comme des peaux de chagrin, avec de l'infanterie, mais pas de tourelles d'artillerie. Et c'est dans ces secteurs-là que les Allemands vont pouvoir attaquer par l'arrière, sachant que n'ayant pas d'artillerie, les forts ne peuvent pas les contrebattre.
Mais n'anticipons pas, dans les grands ouvrages cachés juste sous la surface des collines de Lorraine ou des cols des Alpes, nous verrons demain qu'il y a de quoi faire réfléchir les armées ennemies.
À suivre, bien sûr, Samuel Goschmidt toute cette semaine, et cette série de Samuel est à retrouver en version beaucoup plus détaillée, bien sûr, en podcast sur rtl.fr. Courte pause, dans un instant, laissez-vous tenter de l'été, on parle littérature avec Patrick Modiano, bande dessinée avec Monique Younès et le souvenir d'Olivia Newton-John qui nous a quittés cette nuit. C'est l'inoubliable Sandy, vous en souvenez tous, dans Grease, à tout de suite.
RTL Soir. Laissez-vous tenter de l'été.
Laissez-vous tenter d'été. Et toute l'équipe est là. Bonsoir Monique Younès.
Bonsoir.
Bernard Lehu. Bonsoir Laurent Marsic.
Bonsoir Christophe.
Merci d'être avec nous. On va revenir sur la disparition quand même de quelqu'un qui nous a fait rêver pendant. Surtout pour apprendre à danser. Oui. C'est mon petit côté Travolta, quelque part, à une époque. Le décès d'Olivia Newton-John, on a beaucoup parlé ce matin, on y revient tout de même avec vous ce soir, Laurent Marsic.
Oui, pour tous, elle restera à jamais la Sandy un peu nunuche qui, dans Grease, se transforme en véritable sex-symbole pour séduire le mauvais garçon Danny Zuko, incarné par John Travolta.
Sandy !
Danny !
Sandy, qu'est-ce que tu fais ici ? Je te croyais reparti en Australie.
On a changé nos projets.
Oh, ça alors !
Un film qui, au départ, était une comédie musicale. Olivia Newton-John devient une star planétaire, une icône pour toute une génération. Elle a 30 ans quand elle tourne Grease, et pourtant, rien ne l'a prédestinée au cinéma. Non, sa passion, c'était la musique depuis toujours. Née en Angleterre, c'est en Australie qu'elle grandit et remporte à 16 ans un concours de chant poussé par sa mère. Et de retour en Angleterre, elle enregistre ses premières chansons et connaît ses premiers succès. En 1974, elle se classera même première au hit parade américain avec ceci. La même année, elle représente la Grande-Bretagne à l'Eurovision. Elle termine quatrième, c'est l'année de la victoire du groupe suédois ABBA. Cap alors sur la Californie, où elle se fait un nom sur la scène country. Elle sera consacrée là-bas à deux reprises, chanteuse la plus populaire des États-Unis. C'est John Travolta qui va souffler son nom pour le rôle de Sandy dans Grease. 6 millions d'entrées en France, énorme succès mondial. Mais malgré ce succès planétaire, la magie du cinéma s'arrêtera là. Elle tournera encore deux films avec Gene Kelly ou encore un nouveau avec John Travolta. Le succès reviendra plus tard, en 1981, après des centaines de concerts et une quarantaine d'albums, avec ce titre et cet album du même nom, Physical.
Puis viendra Laurent, le temps du combat, combat contre la maladie.
Oui, un cancer du sein détecté en 1992, une rechute en 2003. Chaque jour est une bénédiction, avait-elle déclaré en 2019 à la télévision australienne. Dans son combat contre la maladie, elle avait créé une fondation et avait même contribué à faire tomber un tabou en révélant que son mari cultivait pour elle du cannabis, qui l'aidait à trouver le sommeil et à apaiser ses douleurs. John Travolta, très ému, a écrit hier soir sur le réseau Twitter « Fidèle du jour où je t'ai vu la première fois ». Et pour toujours, ton Danny, ton John, la chaîne W9, notez-le, bouleverse ce soir sa programmation en rediffusant à 21h05 le film Grease d'Olivia Newton-John. Il reste aussi une pépite qui figure sur son quatrième album sorti en 1973, reprise d'un tube qu'on connaît bien en France de Véronique Sanson, Amoureuse. Ah oui.
Magnifique, hein, Monica.
Très jolie voix.
Je connaissais pas cette version d'Amoureuse. Il y a un peu de patience avec vous encore, amoureuse que vous êtes, Monique Younes, avant de vous retrouver pour parler bande dessinée. On va rester dans le domaine des arts, cinéma, littérature, bande dessinée. Bernard Lehu, je ne vous oublie pas, bien sûr, car vous avez eu la chance, Bernard, de rencontrer Patrick Modiano. C'est le prix Nobel, bien sûr, que vous connaissez tous de littérature, qui vous a ouvert les portes de son domicile parisien à l'occasion de la sortie de son tout dernier roman, Chevreuse.
Un livre à l'atmosphère plus énigmatique, plus inquiétante même que jamais. Jean Bosmans, le double de Modiano depuis plusieurs livres, se souvient de son enfance dans une maison de la vallée de Chevreuse dans les Yvelines. Un lieu nimbé de mystères, peuplé de personnages interlopes qu'il retrouve par une troublante coïncidence 15 ans plus tard, au moment où il se fait écrivain afin d'élucider ce passé et d'en conjurer les fantômes, Patrick Modiano.
Sur le moment, évidemment, les enfants ne s'étonnent de rien, mais c'est rétrospectivement que j'ai trouvé cette enfance assez énigmatique parce qu'il y avait des choses que je comprenais pas ou des gens que j'avais côtoyés dans cette enfance qui avaient disparu. C'est des choses, évidemment, qui vous incitent à écrire. Vous essayez de résoudre, d'essayer de retrouver des explications ou des visages fugitifs, des lieux, une sorte, oui, de recherche comme ça qui aurait pu aussi être celle d'un écrivain qui aurait pu écrire des romans policiers ou c'est-à-dire des énigmes qu'il fallait résoudre, enfin. Et donc, oui, à la base, il y a peut-être ça, une sorte d'énigme originelle qui provoque la vocation d'écrivain, de romancier plutôt.
Le héros de Chevreuse écrit ses livres à la main, à l'encre bleue et sur papier blanc. Et son créateur, Patrick Modiano.
En fait, je peux écrire sur n'importe quelle page. L'encre bleue, oui, à l'époque, peut-être que j'écrivais... Oui, mais c'est pas quelque chose de...
Vous n'avez pas de fétichisme de la couleur de l'encre ou de la qualité du papier. Aujourd'hui, par exemple, vous écrivez avec quelle encre, quel type de stylo?
Oui, oui, n'importe le noir, bleu. Oui, non, j'ai pas le fétichisme. C'est compliqué aussi. Si on a trop le fétichisme des choses, on est bloqué. C'est-à-dire, il faut faire la chose un peu comme ça, en douce. En
fait. Donc, Patrick Modiano écrit toujours à la main. Que fait-il de ses manuscrits ?
Eh bien, il les conserve dans son bureau. Quand je lui ai demandé s'il pouvait me montrer celui de Chevreuse, donc son dernier roman, eh bien, l'écrivain s'est penché vers le fauteuil le plus proche pour un moment, je dois le dire, assez unique. Oui, voilà, sous votre fauteuil, il y a des chemises.
Oui. C'est-à-dire que ça s'accumule, je ne sais plus où les... Oui, bah, c'est des manuscrits... Oui, oh, c'est...
Alors voilà, donc c'est dans une chemise de couleur verte, et voici le manuscrit de Chevreuse.
Oui, mais il n'est pas très raturé. Enfin,
alors feuille blanche tout de même, mais encre noire, des feuilles de format A4, hein, toutes simples, numérotées bien entendu.
Il n'y a pas tellement de corrections.
Avec en effet quelques ratures, mais pas très nombreuses.
C'est après que j'ai écrit tout le manuscrit que je corrige en fait. Et là alors c'est des corrections à n'en plus finir, c'est-à-dire que les corrections durent plus longtemps que le temps que j'ai passé à écrire le livre, en fait.
Le prix Nobel de littérature, Patrick Modiano, et son manuscrit original de Chevreuse, autrement dit un trésor de notre patrimoine. Le livre, lui, est publié chez Gallimard et vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies.
Merci Bernard Lehu. Monique Younes, c'est à nous maintenant. On va parler ensemble d'écrivains journalistes. Vous allez nous parler de deux grandes bandes dessinées. Le premier album que vous avez choisi est consacré à Albert Londres, qui est la référence, on le sait, absolue du journalisme d'investigation français. Et qui est mort il y a tout juste 90 ans. Il avait alors 47 ans.
Oui, c'est une bande dessinée, Albert Londres doit disparaître, écrite comme un thriller par Frédéric Kinder et dessinée par Boris, et qui est un bel hommage à Albert Londres qui est mort dans l'exercice périlleux de ses fonctions de journaliste en 1932. Il revenait d'un long périple en Chine avec des révélations explosives et comme par hasard, le bateau qui le ramenait de Shanghai, le Georges Philippard, a explosé au large de la Somalie.
Était-ce un accident ?
Ben, écoutez, allez savoir. Hein, mais quand on apprend que les amis d'Albert Londres, Alfred et Suzanne Langvillard, à qui il avait confié ses notes, périssent quelques jours plus tard dans le crash d'un avion, on commence à se poser des questions. Et la bande dessinée, Albert Londres doit disparaître, nous lance aux trousses du journaliste-écrivain en Chine et de tous ceux qui ont voulu l'éliminer.
1932, Monique, oui. À Shanghai, c'était le début de la guerre, c'est ça, avec le Japon. Hein.
Exactement. Et en 1932, Albert Londres part en Chine parce que son ancien traducteur, M. Pou, lui envoie le télégramme suivant. « Il y a des choses qui se passent ici » et que votre pays ne peut ignorer. Et cinq jours après son arrivée à Shanghai, le 28 janvier 1932, la marine impériale japonaise débarque à Shanghai, les Occidentaux s'en mêlent, et on va suivre Albert Londres dans le Shanghai. Un Shanghai à feu et à sang, on le voit déjouer mille et un pièges pour rencontrer militaires et diplomates, autochtones et journalistes étrangers. Il enquête, il vérifie les pistes avancées par ses informateurs, et il finit par avoir la preuve, écoutez bien, que les militaires français livrent des armes à l'armée rouge contre de l'opium.
Ah oui,
et leur intermédiaire n'étant autre que des membres de la pègre marseillaise. Et c'est vrai thriller que nous font vivre là Frédéric Kinder et Boris. Dans Albert Londres doit disparaître et il est édité par Glénat.
Passionnant. Et votre deuxième album est consacré au groupe de rock légendaire Led Zeppelin.
Que vous adorez.
Bah oui, quand
parce
même.
Que vous vous souvenez, au commencement, en 1969, il y a eu ça. Le cri d'une jeunesse ivre de liberté, d'amour et de paix, d'un temps où il n'y aurait plus jamais la guerre, on aurait inventé la musique. Yes, baby. Et un demi-siècle plus tard, il y a cette bande dessinée, Les Sauvages Animaux, de Stephen Desberg et Johan de Moor, édité par Casterman, qui raconte l'histoire du groupe le plus dingue de l'histoire du rock, Led Zeppelin, à travers son manager, Peter Grant.
D'accord, c'est celui qui est représenté en ours, c'est ça, sur la couverture de l'album ?
Ben oui, Peter Grant pesait 100 kilos. Il était un ancien catcheur, gros buveur, il fumait autant qu'il sniffait, il découvre le guitariste Jimmy Page en 1968, quand dans un club de blues de Soho, et la virtuosité de ses riffs le rend dingue. Et ensemble, ils trouvent en Robert Plant le chanteur idéal, le batteur idéal John Bonham, et puis le bassiste John Paul Jones. Et c'est parti pour lancer un des groupes les plus mythiques du rock des années 70.
On n'est pas bien là ?
Ah, on est au top. Alors pour lancer le premier disque Led Zeppelin.
Comment, maman ?
Écoutez bien, Peter Grant, vous savez ce qu'il a fait pour Dites-moi. Lancer le premier disque Led Zeppelin ? Il va faire comme moi pour lancer cette bande dessinée, il ne va pas dire ce qu'il y a dedans. Et le coup de bluff crée le buzz. Les fans se battent pour acheter l'album vendu au compte-gouttes. Led Zeppelin 1 est le plus gros démarrage de l'histoire du rock.
Et pour la première fois de l'été, tout le monde va se lever avec vous, Monique Younes, avec Bernard Lehu et Laurent Marsic, parce qu'on va prendre notre guitare, notre batterie, notre basse, notre piano. Et d'ici 19h, voici Led Zeppelin avec Wall of Love.
Vous découvrirez dans l'album toutes les histoires d'amour rock'n'roll du groupe, des histoires qui finissent en général avec des chambres d'hôtel saccagées, l'abus d'alcool, et c'est ainsi que John Bonham meurt à 32 ans. Je vous épargne les détails. Le batteur de Led Zeppelin en était le cœur battant, et le cœur, quand ça bat plus, comme dirait l'autre, c'est douce que ça raconte l'album de Johan de Moor et Stephen Desberg, paru aux éditions Casterman, le titre Les Sauvages Animaux.
C'était pas du bonheur, ça, Bernard, Laurent, c'était pas top?
Non. C'était au top. On était à notre maximum.
Puis-je vous faire une déclaration d'amour,
là, Led Zeppelin? Oui,
mon chéri. Since I've been loving you,
oh,
Monique. Seul problème dans une déclaration d'amour avec Led Zeppelin, c'est qu'après, t'as plus de voix. Ah, mais c'est sûr. Faire ça très tard le soir.
Parce qu'on a besoin de parler après, pas forcément.
Oh, monsieur, t'as connaisseur, Anthony Kaczmarek.